Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Babel Pongo Massimango pour le journal.
Bonjour. Polémique autour de la candidature de Lokondo à la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour certains, comme le PPRD Nzekouye, Lokondo issu du Palou et allé ne peut postuler en indépendant. Le concerné lui-même déclare que sa candidature est conforme à la Constitution ainsi qu'au règlement intérieur. Accrochage la nuit de dimanche hier entre FARDC en coupe d'Assayan à Giro, territoire de Djougou, nous sommes en Ituri. L'armée donne un bilan de 10 morts, dont 6 assaillants. Avec notre invité, le professeur Jean Otemo Kongo, politologue et enseignant à l'université de Kisangani, nous allons analyser la polémique née de la permutation des bourgmestres de Kisangani par le gouverneur sortant. L'actualité politique reste marquée par le débat autour de la légalité ou non de la candidature d'Henri Thomas Lokondo au poste de président de l'Assemblée nationale. Cette candidature est contestée par le Front commun pour le Congo FCC. Dans sa motion incidentielle à la plénière d'hier lundi, le député François Nzekouye a estimé qu'Henri Thomas Lokondo du regroupement Palou Allié ne devrait pas postuler en indépendant. Il demande par conséquent l'invalidation de sa candidature.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle nous a demandé de lire l'article 27, alinéa 2, dans le sens de l'article 101, alinéa 2 de la Constitution, qui dit ce qui suit. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent se présenter en indépendant. Chaque parti ou regroupement politique ne présente des candidatures qu'au poste qui lui est attribué. La majorité a envoyé une lettre au bureau de l'Assemblée nationale pour désigner les candidats par parti politique. Le poste du président de l'Assemblée nationale est dévolu au PPRD. Le Palou et Allié s'est joint dans une logique propre à la majorité parlementaire, à la candidature de l'honorable Jeanine Mabunda. Et donc, aujourd'hui, l'honorable Kondo peut-il nous dire s'il n'est plus membre du Palou pour qu'on le constate? Il est lié au choix de son parti politique et nous devons considérer que sa candidature n'est pas recevable.
En réaction, Henri Thomas Lokondo affirme que ni lui, ni le Palou et Allié n'ont jamais appartenu au FCC et que ce serait une abomination juridique de voter pour ou contre l'application d'une disposition de la Constitution. Il estime que l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas régie par la loi électorale, mais plutôt par le règlement intérieur de la Chambre basse en conformité avec la Constitution. Pour l'élu de Mbandaka, l'article 27 du règlement intérieur, notamment, l'autorise à poser sa candidature en indépendant. Henri Thomas Lokondo.
Est-ce que la plénière a le pouvoir de discuter les dispositions constitutionnelles?
C'est-à-dire que comme vous avez fait maintenant une motion, allez, vous voulez demander au président, monsieur le président, soumettez ça au vote. Soumettez au vote l'article de la Constitution. Vous venez parler pour dire des choses qui relèvent de la mafia politico-juridique, il ne faut jamais le faire, parce que c'est la honte de la République. Moi, je suis du regroupement politique Palou et Allié. Je ne suis ni du Palou, ni du FCC, moi. La majorité présidentielle, c'est une association politique qui n'a aucune personnalité juridique. Ça ne me concerne pas, parce que je suis ici comme indépendant, conformément à la Constitution et au règlement intérieur, un point, un trait. De quoi vous avez peur? Si vous ne voulez pas de l'honorable Lokondo comme président de l'Assemblée nationale, allons aux élections.
Après avoir suspendu pendant quelques minutes la plénière d'hier, le président du bureau provisoire a estimé que cette motion ne relevait pas du règlement, mais plutôt de la politique. Il a soumise au vote avant de suspendre la séance qui s'est terminée en queue de poisson. C'est un dossier signé Michel Kifindangoy. Il y a d'énormes attentes au sein de la population congolaise qu'il ne faut pas décevoir. Cette déclaration est de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Elle a fait hier lundi au cours d'une rencontre avec la presse de Kinshasa, Goma et Bukavu par vidéoconférence depuis la capitale. Pour Leila Zirougui, les bonnes intentions du nouveau pouvoir doivent bénéficier de l'appui de tous. Ces propos recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Je pense qu'il y a de la bonne volonté chez le président et son équipe. Ils ont envie de faire quelque chose de positif. Il faut les aider. Ça ne suffit pas d'avoir la bonne intention. Encore faut-il avoir les moyens, la volonté, le soutien populaire et tout ça pour légitimer l'action et avancer. Et je pense qu'on doit tous s'inscrire dans cette démarche. Nous n'avons pas le droit de trahir ceux qui sont en attente aujourd'hui et qui espèrent, ceux qui souffrent, ceux qui n'arrivent pas à donner à manger à leurs enfants, ceux qui ont été chassés de leur ville, ceux qui ont perdu les leurs, doit leur donner l'espoir qu'en RDC, il y a aussi de la place pour eux et qu'on peut avancer et qu'on peut construire un Congo plus beau qu'avant. C'est ce que vous dites dans votre hymne national.
À une question sur le sort du Radio Okapi à la suite de la fermeture de certaines de ses antennes, Léla Zerougui a laissé entendre que cet instrument est très important pour les Congolais et constitue un lien entre les Nations Unies et les populations congolaises. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour garder ce lien, a-t-elle rassuré. Avant d'aller plus loin, cette nouvelle que nous venons d'apprendre en ce moment, dans un accident de circulation au pied de la montagne Zilo, menant au barrage du même nom à Kolwezi dans le Lualaba. Il s'agit d'une Jeep de la SNEL Kolwezi qui s'est renversée dans le lac artificiel de Nzilo, à 30 km de la ville de Kolwezi. Les sources sur place parlent d'un seul rescapé et de deux corps qui ont été repêchés. Ce mardi, le directeur des opérations indique que les recherches se poursuivent et les familles des victimes s'en sont emmêlées. En Ituri, un accrochage a été signalé entre les FARDC en groupe d'assaillants la nuit de dimanche à hier lundi dans la localité de Jiro, au nord de Bounia, territoire de Djougou. Les FARDC dressent un bilan de 10 morts, dont 4 militaires et 6 assaillants, mais d'autres sources sécuritaires dans la région parlent plutôt d'un seul assaillant tué et de 4 militaires FARDC tombés sur le champ d'honneur. Sadiki Aboubakar.
D'après le porte-parole de l'armée en Ituri, c'était en pleine nuit que les forces loyalistes ont intercepté un groupe d'assaillants en train de progresser vers leur position de Jiro dans le secteur de Walendutati. C'est ainsi que les FARDC ont directement lancé une offensive contre ces assaillants. L'accrochage a duré plus de 2 heures, affirme le lieutenant Jules Ngongo. Il donne ici le bilan officiel.
Et le bilan fait état des 4 éléments de forces armées succombés suite à leurs blessures. Côté ennemi, 6 assaillants ont été neutralisés. Une arme AK-47 dans le jubessière de forces loyalistes. Nous avons récupéré 2 chaînes de munitions de PKM. Il y a aussi une carte d'identité que nous avons ramassée lors de leur poursuite et bien d'autres faits militaires.
Une autre source sécuritaire dans la région parle plutôt d'un seul assaillant tué et de 4 militaires FARDC tombés. Cette source, qui a requis l'anonymat, rapporte également qu'une somme de plus de 15 millions de francs congolais destinée à la paye des militaires a été emportée par les ennemis, ce que Jules Ngongo n'admet pas au stade actuel. Le chef du secteur de Walendutati, Joël Mandé, confirme cet accrochage sans en donner plus de précision. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Restons en Ituri. 3 cas de décès ont été enregistrés hier lundi à Bounia, dans la commune de Chari. Un élève a été tué pour ne s'être pas acquitté d'une dette de 500 francs congolais. Son bourreau, lui, a succombé, victime de la justice populaire. Le 3e cas est celui d'une fille dont le corps sans vie a été découvert dans un bâtiment scolaire en construction dans la concession de l'ISP Bounia. Le bourgmestre de Chari condamne et précise que des investigations sont en cours. Nous faisons le point avec Jean-Claude Lokidile.
Le cas de double meurtre est survenu hier lundi aux environs de 14 locales dans le quartier Kasegwa. Selon le chef du quartier Moudipela qui administre cette entité, une bagarre a opposé deux jeunes gens. Le premier était un élève de la 6e année secondaire et son antagoniste était un réparateur de moto. Ce dernier réclamait à cet écolier une dette de 500 francs congolais. Après avoir répondu qu'il n'était pas en mesure de payer cet argent dans l'immédiat, son créancier lui a enfoncé froidement un couteau dans la poitrine. Ce jeune homme, âgé d'environ 20 ans, c'est là le bourgmestre de la commune de Chari, a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard sur le chemin de l'hôpital. Il a été visiblement touché au niveau du cœur, selon maître Fonsta Genonga. D'autres habitants qui ont assisté à la scène ont alors pourchassé cet homme jusqu'à l'appréhender. Il a par la suite été copieusement tabassé puis brûlé vif par une foule en colère. Le 3e cas est celui d'une étudiante de l'ISP Bounia, dont le corps a été découvert par des élèves dans la matinée d'hier lundi. Selon le bourgmestre, les premiers indices montrent que cette dame aurait été étranglée par des inconnus. Sa famille indique que leur fille avait disparu de la circulation depuis quelques jours. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Ensuite, la société civile du territoire de Mwinga signale un mouvement de population dans le groupement de Basimukinji, secteur du Tomboui. C'est à la limite avec le territoire d'Ouvira dans les hauts plateaux. De nombreux habitants ont quitté leur village à Magunda, Rubumba et Mushojo pour se réfugier dans la brousse. Ils craignent d'être pris comme cible dans les combats qui opposent les rebelles Zougan burundais du FNL, Forebu, au FARDC d'une part et les rebelles burundais au groupe armé Gumino de l'autre. Le porte-parole de l'armée au secteur Sokola 2 au sud du sud qui confirme la poursuite des rebelles burundais par les FARDC dans la région. Fiston Goma.
Les FARDC ont placé leur position avancée au village de Magunda, dans le haut plateau du territoire d'Uvira. L'objectif est de poursuivre les rebelles burundais et les déloger de leur bastion à Rubumba, un autre village situé de l'autre côté en territoire de Mwenga. Selon le porte-parole de l'armée au secteur opérationnel Sokolade au sud du Sud Kivu, ces rebelles burundais du FNL sont coalisés à ceux du Forébou. Des sources locales dans le haut plateau affirment que ces rebelles burundais auraient tué un chef local la semaine dernière dans une localité du groupement de Basimukindji. Cet acte a poussé le groupe d'autodéfense locale Gumino à réagir, forçant des centaines de familles à abandonner leur village. La même source estime à 800 familles le nombre de personnes déplacées depuis une semaine dans la région. Par ailleurs, les autorités de Mwenga se disent préoccupées au sujet de ces opérations militaires de FRDC menées à partir d'Uvira et qui repoussent les rebelles vers l'intérieur sans que des mesures militaires ne soient prises pour empêcher ces rebelles burundais de franchir les limites entre Uvira et Mwenga. Du côté de l'armée, on signale que les contacts sont permanents avec le secteur opérationnel Sokola 2 au nord du Sud Kivu qui contrôle Mwenga. Les porte-parole militaires, le capitaine Dieudonné Kasereka précise que des opérations militaires conjointes sont en vue d'en finir avec ces mouvements rebelles burundais. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayaba, la radio Kapi.
L'invité.
Le gouverneur sortant de la province de la Tchopo vient de permuter certains bourgmestres des six communes de la ville de Kisangani. Cette décision prise sur proposition du ministre provincial de l'Intérieur est contenue dans un arrêté provincial signé le jeudi 18 avril dernier. Sur l'esprit de cet arrêté, Constant Lomata veut redynamiser la gestion des entités territoriales décentralisées dans cette ville. Cependant, l'Assemblée provinciale vient de suspendre cet arrêté sur instruction du ministère de l'Intérieur. Quelle analyse faire de cette décision de l'autorité provinciale sortant? Le professeur Jean Otemo Kongo porte politologue et enseignant à l'université de Kisangani s'entretient à ce sujet avec Donatien Elena Alipanagama.
Professeur Jean Otemi Kongé, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Professeur, le gouverneur sortant vient de procéder à la permutation des bourgmestres de six communes. Quelques temps après, le président de l'Assemblée provinciale suspend cette mesure. Est-ce que c'est une entorse ou cela est légal?
À la différence des provinces qui échappent à la tutelle du gouvernement central, les entités territoriales décentralisées, à savoir les villes, les communes, les secteurs et les chefferies, continuent à être contrôlés par le pouvoir central, mais dans le cas de la réforme actuelle, c'est le gouverneur de province qui est l'autorité de tutelle sur les entités territoriales décentralisées. Puisque le gouverneur de province représente au niveau de la province le pouvoir central, ces autorités décentralisées sont contrôlées par le gouverneur de province.
Ce que l'actuel gouverneur de province sortant a encore ce pouvoir-là de faire ce qu'il a fait avec la permutation.
Le gouverneur de province qui aurait perdu l'élection dernièrement organisée reste en fonction au nom du principe de la continuité de l'État ou de la continuité de l'administration. Et ces autorités sont habilitées à expédier les affaires courantes. Normalement, lorsque une autorité expédie les affaires courantes, il lui est interdit d'ouvrir de nouveaux dossiers. Elle est habilitée uniquement à traiter les dossiers qui étaient ouverts et non pas à ouvrir de nouveaux dossiers. Par exemple, cette autorité ne peut plus se permettre de recruter le personnel, de procéder à la permutation des agents de l'État, passer des contrats et contracter des dettes pour les comptes de leur entité. Et la situation que nous venons de connaître est un peu déplorable parce qu'il s'agit là d'une nouvelle décision.
Après cette permutation, il y a une réaction de la part du président de l'exécutif provincial qui, selon son communiqué, demande au gouvernement de suspendre cette permutation d'après les contacts qu'il a eu avec le vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur et de décentralisation.
L'intervention du président de l'Assemblée provinciale dans cette affaire pose plusieurs séries de questions. L'Assemblée provinciale prétend agir au nom du ministre intérimaire du gouvernement de la République, oubliant que dans le contexte actuel, les provinces ne sont pas soumises à la tutelle du gouvernement central. Et le ministre du gouvernement de la République n'a plus des injonctions données aux provinces et à les contrôler en ce qui concerne les matières qui relèvent de la compétence déléguée aux provinces. Deuxièmement, l'intervention de l'Assemblée provinciale pose un deuxième problème concernant le rapport entre les deux institutions provinciales. L'Assemblée provinciale suspend ou annule l'arrêté du gouverneur de province par un simple communiqué, ce qui est une violation grave du principe de séparation des pouvoirs, de deux pouvoirs, l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Il ne revient pas à l'Assemblée provinciale de suspendre ou d'annuler par un simple communiqué la décision de l'exécutif provincial.
Comment on peut trancher alors ce conflit?
La décision incriminée ici est d'abord aussi inopportune. L'autorité régionale étant en train d'expédier les affaires courantes.
Professeur Jean Otemi Kongo, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.
Voilà, c'est aussi la fin de ce journal. Merci de votre attention.